Bonjour à chacun. Déborah est déjà revenue? Non, pas encore. Voilà, elle va nous rejoindre. En tout cas, ce matin, nous nous réjouissons avec Déborah à l'occasion de son baptême. Un baptême qu'elle a choisi de faire, comme cela nous a déjà été dit, en obéissance à la volonté de Jésus exprimée dans les évangiles et qui dit la foi qui l'anime et qu'elle a placée en Jésus pour son salut, qui dit aussi son engagement à suivre le Christ. Mais c'est quoi suivre le Christ? À l'époque de Jésus, ses disciples, en plus de suivre son enseignement, le suivaient littéralement sur les chemins de la Judée, de la Samarie, et partout où il allait. Mais qu'en est-il pour nous? Pour nous, bien sûr, suivre Jésus, c'est uniquement, c'est déjà pas mal, suivre son enseignement et son exemple. En parlant d'enseignement, il se trouve que Jésus lui-même aborde la question de sa suivance par ses disciples. Et je vous propose ce matin de prendre les quelques minutes qui sont devant nous pour considérer ce que Jésus dit, ce que Jésus enseigne à ce sujet. Comme vous allez le constater, les paroles de Jésus sont fortes. Elles sont même très fortes. Et elles nous interpellent. Elles nous interpellent et ma prière, c'est que chacun de nous, ce matin, puisse ouvrir son cœur à ces paroles du Seigneur. Je vous invite à lire donc dans l'évangile de Marc, au chapitre 8, les versets 34 à 38. Marc, chapitre 8, versets 34 à 38. Puis il, c'est-à-dire Jésus, appela la foule avec ses disciples et leur dit « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'ils me suivent. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et à quoi sert-il à un être humain de gagner le monde entier s'il perd sa vie? En effet, quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Dans les versets qui précèdent ce passage, Pierre vient de faire une magnifique confession de foi au sujet de Jésus, où il dit ceci. Lui, Jésus, leur demandait « Et pour vous, qui suis-je ?» Pierre lui dit « Toi, tu es le Christ. » Pierre a tout compris. « Toi, tu es le Christ. » À l'évidence, il a compris que Jésus est le Christ, c'est-à-dire le Messie, le Sauveur tant attendu parce que promis dans l'Ancien Testament. Mais de quel Messie parle-t-on ? À la suite des paroles de Pierre, Jésus annonce à ses disciples ses souffrances et sa mort. Oui, il est bel et bien le Messie qui devait venir, et il va devoir souffrir et mourir. Voici les versets qui précèdent notre texte. Il commença alors à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et qu'il se relève 3 jours après. Il disait cela ouvertement. Alors Pierre le prit à part et se mit à le rabrouer. Mais lui se retourna, regarda ses disciples et rabroua Pierre. « Va-t'en derrière moi, Satan, lui dit-il. Tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les humains. Jésus donc annonce à ses disciples son chemin de douleur, ce chemin de douleur qui va le conduire jusqu'à la mort, jusqu'à la croix, dont il se relèvera 3 jours plus tard. Seulement voilà, ce programme que Jésus esquisse ici en quelques mots ne plaît pas du tout à Pierre. Ce que Jésus dit ne cadre pas avec ses attentes messianiques. Pour lui et sans doute pour les autres disciples aussi, le Messie attendu ne peut être que triomphant, glorieux, victorieux, certainement pas faible et souffrant jusqu'à se laisser tuer. Le Messie que Pierre espère doit être fort et puissant, en particulier pour les délivrer de l'oppression romaine. Non, ces paroles de Jésus, Pierre ne peut pas les concevoir. Jésus doit se tromper. Il est bien le Messie, mais il ne semble pas avoir compris sa mission. Et Pierre se sent le devoir de corriger Jésus, de le reprendre, de remettre les pendules à l'heure. C'est ainsi, dit le texte, que Pierre prend Jésus à part et qu'il le rabroue. En d'autres mots, il le gronde sévèrement, il le réprimande, il lui fait la leçon. En fait, Pierre n'a rien compris. Enfin, il n'a encore rien compris à la mission de Jésus. Et sans doute qu'il n'a encore pas compris grand-chose de la véritable nature de Jésus. Mais il y a pire. En rabrouant Jésus, Pierre devient l'instrument de Satan, en suggérant un autre chemin que celui de Dieu, un autre chemin sans les souffrances, sans la mort, sans la croix et sans la résurrection. Cette tentation qui ressemble à celle du désert au début du ministère de Jésus amène Jésus à reprendre Pierre très sévèrement. « Va-t'en derrière moi, Satan, lui dit-il. Tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les humains. » Jésus rabroue Pierre à son tour, il le remet à sa place et il rejette la tentation du diable, mais il ne s'arrête pas là. Il saisit aussi l'occasion, comme souvent, pour enseigner ses disciples. Et c'est là que se situe donc le passage de ce matin. Ces disciples qui ont besoin de comprendre la véritable nature de la mission de Jésus, de comprendre aussi qui est Jésus, et en même temps qui ont besoin de comprendre la véritable nature de leur mission, de la mission des disciples. Qu'est-ce que c'est qu'être un disciple de Jésus ? Je relis les versets qui nous intéressent, avec tout ce qu'on vient de dire. Puis Jésus appela la foule avec ses disciples et leur dit, « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et à quoi sert-il à un être humain de gagner le monde entier s'il perd sa vie ? Que donnerait un être humain en échange de sa vie ? En effet, quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » J'aimerais commencer par faire 2 remarques. La première, pour souligner que suivre Jésus n'est à l'évidence pas à la carte. Ce n'est pas quelque chose qui est laissé à l'appréciation de chacun, à l'appréciation du disciple. Ce n'est pas quelque chose qui est à géométrie variable. En fait, suivre Jésus doit se faire selon sa parole, selon sa volonté. Sinon, ce n'est pas suivre Jésus. Ou alors, je suis le Jésus de mon imagination. mais pas celui des évangiles. La deuxième remarque que j'aimerais faire ici concerne l'honnêteté de Jésus. Notons bien ici que Jésus ne fait pas de publicité mensongère. Il n'embellit pas le tableau pour convaincre. Il ne cherche pas à tromper en édulcorant la réalité. Non, Jésus annonce la couleur dès le départ, sans éluder les exigences de la vie de disciple, de la vie chrétienne. Si quelqu'un veut me suivre, dit Jésus, alors qu'il renonce à lui-même, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. La première des exigences mises en avant par Jésus pour celui qui veut le suivre est donc le renoncement à soi. Que veut dire renoncer à soi ? Il me semble que le renoncement à soi fait partie de ces notions de la vie chrétienne qui sont trop souvent mal comprises. Par renoncement à soi, beaucoup comprennent le renoncement au plaisir de la vie sous toutes ses formes. Beaucoup voient dans cette exigence de Jésus un appel à l'austérité, un appel à une vie plate et ennuyeuse. Et beaucoup sont arrêtés à cause de cela dans leur intérêt pour les choses de Dieu. Ils croient comprendre que suivre Jésus, c'est d'engager dans une vie qui ne sera faite que de restrictions, de contraintes, d'abstinence, et j'en passe. Mais la réalité est tout autre. La vie avec Jésus est passionnante. Et Dieu veut que nous jouissions de la vie qu'il nous donne. D'ailleurs, Dieu prend même plaisir quand nous sommes heureux, quand nous jouissons et profitons avec droiture, bien sûr, de tous les biens dont il nous comble. Si Dieu veut que nous jouissions de la vie qu'il nous donne, alors que veut dire renoncer à soi ? J'aimerais suggérer ici que renoncer à soi, c'est renoncer à diriger sa vie sans Dieu. C'est renoncer à diriger sa vie sans Dieu. C'est accepter de laisser la parole de Dieu nous dire ce qui est bien ou mal et de s'y conformer. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève se sont appropriés cette prérogative divine. Ils ont choisi de déterminer par eux-mêmes ce qui était bien ou mal. Ils ont choisi de transgresser le commandement de Dieu. Ils ont choisi de prendre leur destinée en main. Et ils ont ainsi fait le choix de l'indépendance vis-à-vis de Dieu. Renoncer à soi, c'est renoncer à cette indépendance. À cette indépendance vis-à-vis de Dieu qui a été acquise par la désobéissance à Dieu. C'est finalement renoncer à cette usurpation, renoncer à soi, c'est redonner les rênes de ma vie à Dieu, c'est-à-dire lui redonner la place qui lui revient dans ma vie. Voilà dans les grandes lignes, on pourrait bien sûr développer, mais j'avance, dans les grandes lignes ce que renoncer à soi veut dire. La deuxième exigence de Jésus envers celles et ceux qui veulent le suivre, c'est qu'ils doivent porter leur croix. L'exigence du renoncement à soi est renforcée par celle d'une croix qu'il faut porter. Qu'est-ce que cela veut dire ? Si le renoncement à soi est parfois mal compris, la croix qu'il faut porter n'est pas en reste de mauvaise compréhension. Et ainsi on entend toutes sortes de choses. On entend dire que la maladie ou que les épreuves sont la croix, par exemple, que nous devons porter, ou une situation difficile en particulier dans sa vie. C'est ma croix, c'est la croix que je dois porter pour le Seigneur. Pour beaucoup de chrétiens, porter sa croix signifie assumer, supporter les épreuves et les difficultés de la vie. Chers amis, permettez-moi de vous dire qu'il n'est pas nécessaire d'être chrétien pour cela. Il suffit d'être humain. C'est le lot de toute l'humanité que de supporter les difficultés de la vie. Elles ne sont pas propres à la vie chrétienne. J'aimerais suggérer que porter sa croix, c'est accepter à notre niveau toute proportion gardée, bien évidemment, et sans jamais le rechercher, c'est accepter de souffrir quelque chose des souffrances de Jésus. C'est accepter de souffrir quelque chose des souffrances que Jésus a souffert pour nous. Pas ces souffrances expiatoires. C'est accepter d'être parfois rejeté pour lui parce qu'il l'a été pour nous. C'est accepter d'être parfois maltraité pour lui, parce qu'il l'a été pour nous. C'est accepter peut-être un jour de mourir pour lui, parce qu'il est mort pour nous. C'est au final reconnaître que la cause de Christ vaut plus que tout, qu'il n'y a rien que je place au-dessus. La cause de Christ vaut plus que tout et vaut même, si cela devait être nécessaire, que je donne ma vie pour cette cause. Quand Jésus prononce les paroles de notre texte, la sentence de mort par la croix, par les Romains, était malheureusement une triste réalité très fréquente dans l'Empire romain. Ceux à qui Marc écrit cet évangile aux environs de 65-66 après Jésus-Christ sont persécutés. Et la croix, à ce moment-là, est devenue le symbole des souffrances et de la mort de Jésus. Pour les auditeurs de Jésus, comme pour les destinataires de l'évangile de Marc, il est clair que Jésus parle ici, en parlant de porter sa croix, qu'il parle de souffrance et de mort. Chers amis, voilà un programme qui est loin d'être racoleur et qui peut peut-être nous troubler, qui peut peut-être nous inquiéter. Et si cela est le cas, et c'est normal que ça le soit, c'est normal que ces paroles nous percutent, nous bousculent, c'est normal. Il faut se rappeler ici que si le Seigneur a parlé d'exigence à le suivre, il a aussi fait des promesses, beaucoup de promesses, qu'on n'a pas le temps de passer en revue, mais j'aimerais simplement en rappeler une, celle de sa toute-puissance et celle de sa présence constante, avec lesquelles Matthieu termine son évangile. Alors, on en a déjà eu un extrait, mais je prends un verset avant, au verset 18. Jésus s'apprête à quitter ses disciples et voilà ce qu'il leur dit. Il leur a parlé d'un chemin exigeant, mais voilà ce qu'il leur laisse comme dernière parole. Jésus s'approcha et leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Tout pouvoir m'a été donné. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. Oui, suivre Jésus peut s'avérer exigeant, mais celui qui nous a appelés à le suivre a tous les moyens, tout pouvoir pour nous garder. Et il est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il est temps de terminer. Et je conclue avec ce sixième et dernier point qui souligne que l'enjeu est de taille. En effet, si le chemin proposé par le Seigneur est exigeant, comme nous venons de le voir, c'est parce que l'enjeu est de taille. Et pour bien comprendre de quoi il retourne, nous allons relire notre texte à partir du verset 35. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra. Mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. À quoi sert-il à un être humain de gagner le monde entier ? Vous imaginez gagner le monde entier ? Waouh, on pourrait en faire des choses. Hein. Mais à quoi sert-il à un être humain de gagner le monde entier s'il perd sa vie ? Que donnerait un être humain en échange de sa vie ? En effet, quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Quel est l'enjeu ici ? C'est celui du salut. C'est celui de gagner ou de perdre sa vie dans la perspective de l'éternité. Oui, ce qui est en jeu ici, c'est l'éternité. C'est la destinée éternelle de chacun de nous. Et comme le dit Jésus, à quoi me servirait-il de gagner le monde entier si au final, je perds mon âme, je perds ma vie ? À quoi servirait-il de sauver ma vie ici-bas ? Si un jour Jésus avait honte de moi quand il reviendra ? En fait, ce que Jésus dit ici de manière très claire, c'est que ma destinée éternelle, votre destinée éternelle, mon salut, votre salut, dépendent de ma suivance, de votre suivance ou pas de Jésus. Si on réduit les choses, au final, c'est de ça dont nous parlons. Ne pas suivre Jésus, c'est sauver sa vie, mais pour finalement la perdre pour l'éternité. Alors que suivre Jésus, c'est perdre sa vie, mais pour la gagner pour l'éternité. Perdre sa vie ici-bas. Et dans notre texte, donc, Jésus nous met chacun devant un choix à faire. Un choix dont les conséquences dépassent notre vie ici-bas. Un choix qui nous invite chacun à bien faire les comptes, à bien peser le pour et le contre de ce dont nous sommes en train de parler. Pourquoi ? Parce qu'au final, quand Jésus reviendra, je ne pourrai rien donner, rien, en échange de ma vie, rien. C'est ce que Jésus dit au verset 37. Rien, pas même le monde, si je l'avais gagné en entier, ne suffirait à payer ma vie quand Jésus reviendra. Chers amis, je peux perdre mes clés, c'est pas grave. Il suffit de les refaire. Chers amis, je peux perdre mon emploi, c'est déjà un peu plus grave. Mais bon, on peut toujours en retrouver un autre, généralement. Mais si je perds mon âme, si je perds mon âme, il n'y a rien que je puisse faire pour la racheter. Elle est perdue pour l'éternité. Et le seul qui peut sauver mon âme, c'est Jésus. C'est le seul. Mais il faut pour cela mettre sa foi en lui, en son œuvre salvatrice. Et quand nous le faisons, ben c'est comme ça que nous commençons à le suivre. Tout simplement. Ce matin, nous nous réjouissons avec Déborah qui a choisi de suivre Jésus et elle peut compter sur son aide pour y arriver, comme chacun des disciples de Jésus. La question qui reste, et c'est la plus importante pour chacun de nous, et j'aimerais vous la laisser pour terminer. Avez-vous choisi de suivre ou pas Jésus ? Avez-vous choisi de suivre ou pas Jésus ? Puissions-nous chacun prendre le temps de répondre à cette question maintenant dans notre cœur, et je vous invite à prendre quelques instants de silence où nous pouvons penser à cela et peut-être y répondre dans notre cœur. Amen.